Chapitre 27. J'ai rangé la numéro 20 sur laquelle j'ai écrit « Aimé Chauvel, le footballeur aux boucles d'ébène » dans sa boîte en plastique. Au fond, Colette aura fait des collections toute sa vie. D'abord celle du football, et plus tard ses cassettes. Elle avait un besoin viscéral de transcrire le présent et les événements quelque part. Je n'ai pas fermé les yeux pour choisir la cassette suivante. Je veux écouter la suite de la numéro 7, l'enregistrement concernant Blanche. Parce que cette inconnue, cette femme qui est décédée dans ma chambre chez Colette, c'est elle. Les photos sur les murs, le portrait du lion, sans doute la lionne Naja dont parle Blanche, et les monstres en sont la preuve. Je réinsère la cassette.
On est le 9 janvier 2003.
Elle a donc attendu 2 jours avant de reprendre l'enregistrement. Blanche est-elle toujours à ses côtés?
Tu vois, Agnès, les gens, ils nous regardent pas vraiment. Lorsqu'on te demande comment tu vas, la plupart du temps, on se fiche de la réponse. Et si une fille ressemble à une autre fille, alors ça leur va. Ils pensent au hasard. Il a bon dos, le hasard.
Le téléphone sonne. Elle le laisse sonner sans couper l'enregistrement. J'imagine son visage. Je me demande si c'est moi qui tente de la joindre depuis l'Amérique et si elle se dit « Agnès rappellera plus tard. Pour l'instant, j'enregistre ces mots pour elle. » Le 9 janvier 2003 tombait-il un mardi? Comment aurais-je pu imaginer que quand je lui téléphonais, une autre femme vivait près d'elle, dans ma chambre?
Donc, les gens, ils se fichent un peu de ce qui peut être extraordinaire dans la vie. Ils sont pas curieux. Font comme ils peuvent. Blanche et moi, on s'est toujours ressemblé, de la tête aux pieds. À 10 ans, on avait la même allure, la même taille, les mêmes cheveux châtain foncé et légèrement bouclés. Et coiffé pareil, une queue de cheval. À l'école, c'était obligatoire d'avoir les cheveux attachés pour les filles et les cheveux courts pour les garçons. On a la même peau claire, les lèvres épaisses, les yeux marrons en amande, les cils et les sourcils noirs. J'ai jamais compris la beauté de mon frère, d'où elle venait, la laideur de mes parents et celle de ma sœur Danielle, et encore moins mon côté typé qui vient d'on ne sait où. Après la mort de Jean, comme j'étais toujours habillée en noir, à Guignon, certains ont commencé à m'appeler « la Corse ». J'ai jamais cru une seconde que la mère ait pu fauter, ni pour Jean, ni pour moi. Et puis, quand? Où? Elle a jamais quitté la ferme pendant les années d'exploitation, sauf pour aller au marché avec le père. Le seul autre homme qu'elle ait fréquenté, c'est Sénéchal, qui était une tête de con, mais pas un coureur. Et puis, il faut avouer, la mère était pas bien attirante. Et elle avait jamais l'air attirée par personne, même pas par le père. Je les ai jamais vus s'embrasser, se dire un mot gentil. Rien. Chez nous, on comptait.
Elle cesse de parler quelques secondes. Est-ce qu'elle pleure? Je ne décèle pas d'émotion particulière dans sa voix.
Déjà, à 10 ans, Blanche a dans le regard quelque chose de bien plus dur que moi. Ou plutôt, comment dire, le haut de son visage, son front et son regard, ils sont déjà marqués, comme ceux d'une femme. Contrairement à moi, elle n'a pas l'air d'une petite fille. Mon enfance à la ferme par rapport à ce qu'elle a vécu dans son cirque, c'est de la gnognotte. Et puis moi, j'ai été sauvée. J'ai eu Blaise et Mokhtar. Sans parler de ce que m'a apporté mon petit Jean. J'ai eu de la chance. Pas Blanche. Son père n'est pas mort.
Elle bouge un peu sur sa chaise, puis reprend à voix basse.
Et il vit toujours. Alors, voilà, je la revois 3 ans après son premier passage à l'école de Guignon. On est en 7e. Le chapiteau de sa famille est sur la place de Gaulle, comme la dernière fois. Et Blanche va passer 2 semaines dans notre classe. Le maître la présente aux autres élèves et, exactement comme 3 ans avant, tous les regards se dirigent vers moi. Pourquoi la Romano ressemble à la Pecno comme 2 gouttes d'eau? Mais toi, à ma place, Agnès, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de croiser une personne qui te ressemble, mais je peux te dire qu'après une sorte d'appréhension, tu vas vers elle parce que tu te reconnais. L'autre t'attire comme si tu étais en face d'un miroir. C'est l'autre toi. J'avais envie de la toucher. Avec Blanche, la première chose qu'on a faite, c'est comparer nos mains. Chercher si on avait des grains de beauté pareils ou des taches de naissance identiques. Elle en a une en forme d'étoile sur le genou. Pas moi. On a presque été déçus. Comment t'expliquer? J'ai jamais été jolie. Elle, si. Si tu avais fait un gros plan sur chaque partie de nos visages avec ta caméra, toi, tu aurais vu nos différences. C'était juste une question d'enveloppe. À 10 ans, Blanche attirait déjà les garçons. Moi, ils ne me regardaient pas. Il y avait déjà de l'envie plein leurs yeux quand les redoublants observaient Blanche, ses mouvements. Même le maître. Ça m'a marqué. En classe, il ne se comportait pas avec elle comme avec nous. Il lui parlait comme si elle avait 15 ans, alors qu'elle n'était pas plus haute que nous, ni même formée. Comme quoi, tout dépend du regard des gens. Et de leurs chaussures. Mais ça, c'est une autre histoire.
Le téléphone sonne à nouveau, et contrairement à tout à l'heure, je l'entends se lever et répondre.
Allô ? Ah, c'est toi, Pierre.
S'ensuit un court silence. Quelque chose change dans sa voix, je devine de la joie.
Attends une minute !
Répond-elle à son interlocuteur.
J'arrive !
Je l'entends revenir vers le magnétophone en trottinant. Elle porte des chaussons. Elle arrête l'enregistrement. Pierre. Quel Pierre? Mon Pierre? Mon mari? Mon mari téléphonait à ma tante? Non, c'est sans doute un autre Pierre, un client. Non, elle ne tutoyait pas ses clients. Elle ne tutoyait pas facilement. Pierre qui? J'appelle Jacques Pierry, qui m'a donné son numéro de portable avant de partir. Je regarde l'heure, 23h. Après tout ce que m'a confié le docteur, il ne peut pas être déjà dans les bras de Morphée, ça doit forcément mouliner dans sa tête. Nos souvenirs sont nos nuits blanches. Il répond aussitôt.
Oui.
Dis-moi Jacques, est-ce que ma tante avait un ami qui s'appelait Pierre? Long silence.
Ton mari, l'acteur?
Sa réponse m'agace. Pierre, l'ami de Colette? C'était son beau-neveu. J'ignore comment on appelle le mari de sa nièce. En dehors de mon mari, ici, à Guignon. Un temps.
Faut chercher dans les joueurs.
Elle n'aurait jamais tutoyé un joueur.
Un junior?
Peut-être.
Un client?
Ou alors un enfant?
Un autre supporter?
Ouais, pas con.
Sinon, à part Louis Berthéol, les gosses de commerçants qui passaient lui présenter leurs vœux en début d'année étaient copains d'avant. Je pense pas qu'elle voyait grand monde. Elle sortait de sa cordonnerie un samedi sur deux pour aller au match. Pierre, c'est un prénom commun, c'est pas comme Amalric. Après, vu les mystères qu'elle nous a faits, je me dis que tout est possible.
Oui, les mystères. Tu crois qu'il est quelle heure à l'île Maurice?
Je dirais 1 ou 2 heures du matin. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 heures de décalage horaire par rapport à nous.
Tu y es déjà allé?
Oui.
Ah bon?
En voyage de noces avec Hélène.
Ah, bien sûr.
Bonne nuit, Agnès.
Bonne nuit, Jacques. En voyage de noces. Le mien, je l'ai passé dans une salle de montage, à rassembler des kilomètres de pellicules. Pierre et moi, nous sommes mariés à la fin du banquet des anciens, en 93. Nous avons fait une fête de fin de tournage avec les comédiens, les techniciens et les producteurs. Nous ne savions pas encore que le film allait rencontrer un succès aussi retentissant. À l'époque, Pierre était déjà connu. Il avait joué dans quelques films notoires. Moi, pas du tout. Premier long métrage à 21 ans. 10 ans que j'écrivais des scénarios. Celui-là avait tapé dans l'œil de mon producteur. Entouré d'une équipe technique redoutable, j'ai réussi à commettre le miracle du premier film, qui est lui-même devenu miraculeux à bien des titres. En le réalisant, je me suis offert un tapis volant. Un an auparavant, j'avais fait un court-métrage, Au piano. Il a été sélectionné dans beaucoup de festivals importants, et chance inouïe, il a remporté de nombreux prix. Les récompenses, ça rassure. C'est pour réaliser Au piano que j'ai rencontré Pierre. Un ami d'amis le connaissait personnellement et m'a arrangé un café avec lui à Paris. À l'époque, je vivais toujours à Lyon. Je l'avais vu ne pas jouer dans les films et j'aimais son visage typé de juif errant, comme le chante Georges Moustaki. Sa sincérité, son sourire, son phrasé. Il ne ressemblait à personne. Je n'avais pas envie d'un acteur à la mode. Malgré mon inexpérience absolue, je savais ce que je voulais. Je recherchais un homme qui dégagerait la même chose que mon père. Un truc qui sente vrai, qui sente bon. Une fantaisie cachée derrière un visage presque austère. J'avais envie d'être bouleversée. Je venais d'écrire l'histoire d'un pianiste de bar qui tombe amoureux d'une cliente venue fêter son enterrement de vie de jeune fille avec ses amis. C'est Mathilde Seigné qui joue la future mariée. Merveilleuse Mathilde, alors inconnue, que j'avais repérée dans un rôle minuscule au théâtre. Il n'y a pas de petit rôle pour les grands acteurs. J'ai rencontré Pierre un matin près de chez lui, du côté des Champs-Élysées. J'ai bu un lait fraise pour me donner un genre. Aujourd'hui encore, je me demande lequel. Et lui, un double expresso serré. Il est arrivé, poli mais bougon, la gueule à l'envers. Il m'a dit qu'il s'était couché tard. La première chose qu'il m'a demandé, c'est « Mais vous avez quel âge ?» Comme si ma jeunesse était suspecte. J'ai immédiatement été impressionnée par lui. Je lui ai raconté l'histoire de mon pianiste pour me donner un air important et le convaincre. Il pouvait me faire confiance. Exactement comme si je lui demandais sa main le temps d'un film. Moi, l'illustre inconnu, je ne manquais pas d'audace. Alors, mon pianiste, enfin vous, si vous acceptez le rôle, dès qu'il voit cette jeune fille pénétrer dans le bar où il joue chaque soir et où personne ne l'écoute vraiment, il change complètement son répertoire musical habituel. Comme si tout à coup il était ensorcelé, hanté par des chansons populaires en la voyant passer la porte. D'habitude, mon pianiste, enfin vous, vous jouez des standards de jazz sans jamais ouvrir votre micro, vous êtes un puriste, il n'y a que Coltrane et Fitzgerald qui comptent. Quand j'ai prononcé ces deux noms, j'ai entreaperçu son sourire pour la première fois. Et lorsque vous apercevez cette fille entourée de ses amis, vous vous mettez à chanter des tubes comme ceux qu'on entend sur Radio Nostalgie, ce qui fait rugir le patron et étonne un peu le groupe de filles qui sirotent du champagne. Celle qui vous tape dans l'œil est grimée, elle porte un t-shirt « Bientôt mariée, dernière soirée ». Et vous, enfin mon pianiste, ça vous rend fou d'amour. Comme Dustin Hoffman dans Le Lauréat. Quand j'ai prononcé le nom de Radio Nostalgie, je l'ai vu tiquer une première fois. Mais je pense l'avoir définitivement perdu avec Hoffman. Je l'ai entendu se dire « Encore une pisseuse qui se prend pour la vieille vague et se croit originale. » La vieille vague. C'est ainsi qu'il nommait la nouvelle, avec une véritable aversion pour Godard, deux films mis à part, Pierrot le Fou et À bout de souffle. Moi, j'aimais le mépris. Et il m'engueulait parce que j'aimais le mépris. « C'est lui qui vous méprise », me répétait-il. Pierre a continué à faire semblant de m'écouter en me regardant gentiment. Il a consulté sa montre, réglé l'addition, le scénario à la main. Il a bredouillé « Je ne suis pas très libre en ce moment, je lis et je vous rappelle », sûr de ne jamais me revoir. Il me l'a dit plus tard. Sauf qu'il m'a rappelé le soir même.
« Je le fais, votre film ».
L'innocence de la jeunesse fait que je ne me suis même pas dit « C'est fou, cet acteur reconnu accepte de faire un court-métrage avec moi ». On a tourné 3 jours dans un piano-bar du côté de l'opéra avec Pierre et Mathilde, sans doute le plus beau souvenir de ma vie professionnelle. Je pense que ma force est d'avoir toujours été bien entourée. Je n'ai travaillé qu'avec des bons. Mon chef opérateur, Guillaume Schiffmann, qui était aussi mon preneur de son et mon cadreur sur « Au piano », est un type génial. Très reconnu aujourd'hui. Il a toujours su comprendre les plans que j'ai dans la tête. C'est mon meilleur traducteur lumière, émotion et mouvement. Pierre m'a avoué plus tard qu'il avait tellement ri en lisant mon scénario qu'il s'était dit qu'il ne pouvait pas passer à côté d'une nana capable d'écrire un truc aussi barge. J'ai même réussi à lui faire chanter Le coup de soleil de Richard Cocciante et Si j'étais un homme de Diane Tell. Aux innocents les mains pleines. Grâce à ma comédie romantique et rigolote, j'ai pu trouver les financements pour Le banquet des anciens, et moi qui suis l'enfant d'un pianiste et d'une violoniste, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est après avoir lu le scénario du banquet que Pierre a demandé ma main. Il m'a dit « Mon amour, si on fait ce film, si on va au bout, je t'épouse le jour de la fête de fin de tournage. Mais j'aurai droit à une robe de mariée ? Tu auras droit à toutes les robes. Mais on va se marier pour de vrai ? On va se marier pour de vrai, vivre ensemble pour de vrai. Et peut-être, si on ne devient pas trop chiant, vieillir ensemble pour de vrai. » Le maire d'une commune près de Giverny, lieu du tournage, a fait une entorse au règlement, car nous n'étions pas résidents, et nous a obtenu une dérogation. Il nous a mariés un samedi matin. Louis Berthéol a accompagné Colette, ma mère est venue avec son meilleur ami, chef d'orchestre. Je suis sûre que c'était son amant, mais elle ne m'en a jamais parlé. Parfois, je la taquinais. « Maman, c'est ton amoureux ?» Elle levait les yeux au ciel en souriant, alors je n'insistais pas. Nous avons loué un gîte à la campagne, dressé un buffet comme dans mon film, et nous avons bu et dansé toute la journée. Nous avons mélangé nos vies, les vraies et les fictives. Tous épuisés après ces semaines intenses, les membres de l'équipe semblaient ignorer si nous étions encore en plein tournage ou en plein mariage. Regardais-je Pierre comme mon acteur, celui qui m'avait donné bien plus que ce que j'attendais de lui dans le rôle phare de mon histoire, ou comme mon mari, mon idéal, celui avec lequel je m'unissais pour la vie? Forcément un peu les deux. Ce qui est certain, c'est que j'aimais les deux. J'aimais tout de cet homme. C'est la première et unique fois que j'ai vu Colette danser. Elle a valsé avec ma script et mon chef opérateur. C'est aussi la première fois que je l'ai vue porter une robe, bleue avec des papillons qui volaient dessus. Un peu trop large, un peu trop grande, et des souliers blancs. Était-il à Blanche ? La revoyait-elle déjà en 93 ? Colette et maman avaient l'air heureuses pour nous. Elles ont dû se sentir un peu exclues du groupe, isolées, même si tout le monde a été adorable avec elles. Retrouver une équipe à la fête de fin de tournage, c'est retrouver un groupe qui vient de vivre une vie à 100 à l'heure, dans une parenthèse hors du temps, une vie que les autres ne peuvent absolument pas comprendre.
Allô ?
C'est moi.
Je sais. Maintenant, les noms s'affichent sur les téléphones.
Et ils s'affichent comment, le mien ? Agnès Toucourt ? Agnès Septembre ? Agnès Duguin ? Mère d'Anna ? Je l'entends soupirer.
Tu connais le décalage horaire ?
Oui, depuis que tu m'as quittée. Il bouge, passe dans une autre pièce. Je me demande s'il dort nu avec l'autre. J'ai une question à te poser.
Je t'écoute.
Quand nous vivions aux États-Unis, il t'arrivait d'appeler ma tante derrière mon dos ?
Pourquoi derrière ton dos ?
Il appuie sur le mot « derrière », agacé. Bah, parce que c'était ma tante, pas la tienne. Je l'entends allumer une cigarette.
Oui.
Mon sang se glace. Oui, quoi ?
Oui, j'appelais Colette derrière ton dos.